Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
De retour en onde, là, on va être avec Enzo qui va nous parler de l'Afrique du Sud contre Israël, surtout ce qui se passe à l'international.
Et oui, je voulais parler du procès qui a lieu en ce moment à la Cour pénale internationale de justice à La Haye. Cour pénale où a lieu en ce moment un procès de l'Afrique du Sud contre l'État Israël. En fait. Comme dans le contexte actuel, dans le contexte que vit en ce moment dans la situation actuelle que vit Gaza, l'Afrique du Sud a décidé de se poser comme acteur à l'international en réponse à ça, c'est-à-dire au contexte depuis les attaques du 7 octobre menées par le Hamas sur des festivaliers en Israël. L'Israël a riposté sur Gaza. Mais en fait, depuis deux mois, a fait plus que riposter, parce que au-delà de toucher et de vouloir cibler des terroristes, l'État d'Israël aura en tout tué plus de 26 000 civils, dont plus de 60% qui sont des femmes et des enfants, donc des civils qui n'ont aucune implication. Dans ce conflit. Donc on peut ici parler d'un génocide, et c'est d'ailleurs pour ça que l'Afrique du Sud monte au créneau à la Cour pénale internationale, car elle décide de juger l'Israël par rapport à la question de la déportation de la population gazaoui et l'Afrique du Sud juge Israël pour génocide. C'est dans un contexte aussi qu'on a en ce moment où on a un contexte d'anti-impérialisme qui se développe de plus en plus sur l'échelle internationale. Un nouveau paradigme lié à la décolonisation et où la lutte des anciens pays colonisés se bouge et lutte de plus en plus face aux pays impérialistes. On a vu que tout un tas de pays d'Afrique, du Moyen-Orient, ont voulu rejoindre les BRICS, avoir une monnaie parallèle en concurrence au dollar. Également, si c'est l'Afrique du Sud qui est montée... excusez-moi, je me suis un petit peu perdu. Il y a tout un tas de pays du Sud qui ont rejoint les BRICS. Et c'est aussi, on voit qu'on a un nouveau paradigme où, jusqu'à présent, les plus grands problèmes historiques, les plus grandes problématiques étaient vraiment centrés sur l'Occident. Mais c'est quelque chose de nouveau qu'on voit. On voit que on a un choc, on a une réalité, les gens réalisent, en fait, ce qu'a été la colonisation. Ce qu'elle a impliqué et quelles en sont ses conséquences. Et c'est dans ce contexte-là qu'on voit que les choses sont en train de bouger au niveau international. Ensuite, pourquoi l'Afrique du Sud ? Pourquoi c'est l'Afrique du Sud qui monte au créneau contre Israël ? Parce que notamment pour son histoire, l'Afrique du Sud est un pays qui a connu un état d'apartheid pendant des années et des années, où les blancs asservissaient, exploitaient la population d'Afrique du Sud. Et ainsi, je pense que l'Afrique du Sud se reconnaît dans ce que vit la population gazaoui, dans ce que peut vivre Gaza en ce moment, où le peuple arabe de Gaza vit une exploitation dans cette région palestinienne, où elle est appelée à être exilée. Vit des bombardements multiples, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu 26 000 morts avec une majorité de femmes et d'enfants. Donc c'est vrai qu'on peut faire un parallèle entre cette situation-là et la situation qu'a pu vivre l'Afrique du Sud, effectivement. Ce qui est intéressant, malheureusement, ce qui est intéressant dans ce dans ce procès, c'est qu'on peut voir aussi la crise finalement du système international, du droit international, car comme on le sait, il faut que les membres permanents de l'OTAN signent un accord pour que la décision du droit international puisse être appliquée. Mais les États-Unis font partie de ces cinq membres permanents, ce qui peut laisser peu de chance en réalité à ce que le résultat de ce jugement soit appliqué. De plus, l'Afrique du Sud est un pays qui a vécu à peu près quelque chose de similaire, et le seul pays qui est monté au créneau face à ça. Jusqu'ici, la plupart des pays impérialistes soit soutenaient leur propre intérêt économique et avaient très peu de pensées ou de paroles pour la situation qui a lieu en ce moment à Gaza. Noémie, tu voulais intervenir, je crois, sur...
Oui, c'est ça. Je voulais revenir un petit peu là, par rapport à justement le fait que l'Afrique du Sud accuse de violation contre la Convention des Nations Unies sur le génocide Israël. Vraiment, là, par rapport justement, tu parlais là, à l'inefficacité du système international. Vraiment, là, j'aimerais plus m'attarder là-dessus, là, le fait que la CJ pourrait prendre des années, justement, là, pour rendre une décision là-dessus. Puis, dans le fond, là, la compétence de la CJ repose uniquement sur le consentement des États, notamment en raison du principe de souveraineté qu'on retrouve dans la Charte des Nations Unies. La décision de la CJ, là, elle ne serait pas automatiquement applicable là, aux États, comme dans n'importe quel litige là, qui est porté devant sa cour. Les États doivent approuver la compétence de la CJ pour que les décisions soient contraignantes et effectives. Là. Fait qu'on il y a vraiment un caractère volontaire de la reconnaissance de la compétence pour qu'il y ait application du jugement. Puis, dans le fond, là, on peut faire un parallèle justement avec le cas russo-ukrainien, là, où est-ce que la Russie avait refusé de reconnaître la compétence de la CIJ, ce qui avait fait en sorte que la décision de la CIJ de suspendre l'invasion n'avait pas eu d'impact réel, là, parce que justement, la Russie n'avait pas reconnu sa compétence, même si la Russie est un membre permanent au sein de l'Organisation des Nations Unies. Je pense que Marc-Antoine, tu voulais aussi rebondir un peu surtout sur la chronique d'Enzo.
Oui, effectivement. Tout à l'heure, Enzo mentionnait des parallèles en lien avec la situation que l'Afrique du Sud a vécue et la situation actuelle. Le Congrès national africain, qui est au pouvoir depuis 1994, dont Nelson Mandela a été une figure importante, avait notamment dit que la liberté d'Afrique du Sud serait incomplète sans celle des Palestiniens. Et tout à l'heure, il a aussi mentionné les BRICS dans sa chronique. Donc, les BRICS sont ce qu'on peut appeler les économies émergentes, composées de du Brésil, de la Russie, la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud. Ils viennent d'ailleurs d'ajouter des nouveaux membres depuis le 1er janvier de cette année, soit l'Arabie Saoudite, l'Argentine, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, pardon, l'Éthiopie et l'Iran.
Bah, merci de le rappeler, effectivement, Marc-Antoine. Puis oui, comme le disait Noémie, merci de l'avoir rappelé aussi. C'est vrai que c'est un jugement qui a lieu pour savoir s'il y aurait une possibilité de juger Israël pour crime de guerre, comme pour le cas de Poutine, s'il y avait possibilité de juger Poutine comme si la Russie menait une situation...
Pour l'invasion d'Ukraine.
Une invasion. Donc ça, c'est pas un jugement définitif, c'est un jugement pour voir si on peut juger ces pays pour ces motifs-là. Donc ça prouve encore aussi la lenteur du système face à la réalité qui est telle. Parce que comme pour le cas en Russie, je pense que depuis le début des prises en charge du droit international sur la question, ouais, c'est des milliers de civils ukrainiens qui sont décédés aussi depuis le début du conflit ukrainien qui dure depuis 2 ans. Et pareil, c'est des milliers de civils qui sont décédés depuis le début du conflit que subit Gaza depuis 2 mois. Donc c'est ça, c'est déjà l'inefficacité un petit peu du droit international et sa lenteur dans le processus. Après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce jugement aura des conséquences diplomatiques, pourrait faire changer les points de vue à l'international, notamment des pays internationaux. Quelles conséquences cela va avoir? C'est toute la question qu'on peut se poser. Je vais laisser Noémie conclure.
Oui, c'est ça. On voit vraiment, justement, peut-être une certaine carence au niveau de l'efficacité du droit international, des organisations internationales aussi. Même, c'est ça, l'ONU, c'est une grande organisation, puis elle comprend beaucoup de membres. Mais même à ça, on a de la difficulté à faire appliquer, justement, des décisions là, par rapport à la CIJ. Dû au fait que de la reconnaissance de la souveraineté des États. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller à une petite pause. On vous revient là, avec une entrevue avec Marc-Antoine Rouillard, qui est directeur adjoint à la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques au CHU.